Jean-Claude de Lestrac, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous avez pensé du discours assez anti-Donald Trump de Michael Jean? C'était le 26 novembre dernier à l'ouverture du dernier sommet de la francophonie à Antananarive.
Elle est dans l'air du temps. Tout le monde fait ça ces jours-ci. Je pense que cette élection de Trump, il y a des inquiétudes qui s'expriment, notamment sur les questions de la gestion de la diversité, qui est un enjeu essentiel pour la francophonie. Donc je trouve qu'elle a eu raison d'évoquer la question. Maintenant, sur le ton, chacun choisit son ton et son moment.
Elle y est allée assez fort quand même. En tant qu'ancienne gouverneure générale du Canada, elle n'a pas hésité à s'élever contre tous ceux qui veulent ériger des murs. On pense évidemment à ce mur éventuel entre les États-Unis et le Mexique.
Oui, elle est la voix de la francophonie. Vous savez bien que la francophonie a fait la question de la diversité, notamment culturelle, la gestion de la diversité, une de ses missions essentielles. Elle a eu parfaitement raison de le souligner. Maintenant, sur le plan de la diplomatie, c'est peut-être autre chose.
Avec le Congolais Henri Lopez et le Burundais Pierre Buyoya, vous êtes l'un des candidats malheureux à la succession d'Abdou Diouf. C'était il y a 2 ans au sommet de la francophonie de Dakar. Quel regard portez-vous sur la direction de la francophonie par Michael Jean depuis 2 ans?
Il y a un certain nombre d'interrogations qui étaient posées déjà au départ sur la vision qu'a Madame Jean effectivement de la francophonie. Cette interrogation s'était exprimée au moment même de son élection, notamment en France. J'ai lu des documents du Quai d'Orsay, se posant la question de savoir si elle avait effectivement une vision pour la francophonie. Je ne peux pas répondre à cette question pour l'instant. Elle est à mi-mandat. On ne peut pas dire qu'il y a eu des initiatives marquantes, sauf peut-être, on l'a vu devant le Conseil de sécurité, ce qui était une première, sur la question de la RDC. Mais pour le reste, et notamment sur le rôle de la francophonie en termes de stratégie économique, à un moment crucial pour l'Afrique, sur la question de l'industrialisation de l'Afrique, je n'ai pas vu d'initiative nouvelle.
Depuis 2013, le budget annuel de l'OIF, la francophonie, est tombé de 85 à 75 millions d'euros. Est-ce que ça vous inquiète?
Oui, c'est extrêmement inquiétant. Alors, au niveau des contributions des pays, il y a de plus en plus de difficultés à faire en sorte que les pays payent leurs cotisations. Ensuite, il y a de plus en plus de difficultés à mobiliser des fonds pour des projets. C'est peut-être l'illustration d'un manque d'intérêt pour une organisation dont on ne sait pas très bien où elle veut aller, ce qu'elle est réellement. Elle a le souci de vouloir s'agrandir sans cesse, sans vraiment un droit d'inventaire de ceux qui souhaitent y adhérer. On est dans un moment de confusion, d'ambiguïté, manque de réflexion stratégique, dispersion de petits projets que l'on essaye de faire dans l'un ou l'autre pays comme une manière de satisfaire les égos des uns des autres. Tout ça ne fait pas une grande ambition pour la francophonie.
L'élargissement de la francophonie hier au Qatar, peut-être demain à l'Arabie Saoudite, vous en pensez quoi?
C'est un non-sens. C'est quoi la francophonie? J'ai jamais compris pourquoi le Qatar et moins encore l'Arabie Saoudite. Enfin, heureusement, je crois que ça a été repoussé, c'est pas pour tout de suite. Mais ce dont il s'agit, c'est de définir ce que nous voulons être, ce que nous sommes, ce que nous pouvons être, ce qui nous réunit véritablement, et quelles sont ces valeurs-là. Et si tout le monde peut y adhérer, quel est le projet? Je comprends absolument rien à cette volonté d'élargissement permanent sans une réflexion profonde sur la stratégie à mener.
Dans Francophonie, le pacte brisé, votre dernier livre, vous dites que votre défaite à Dakar en novembre 2014 est le résultat d'un coup de force. Le mot est fort.
Il est juste. C'est un coup de force de Hollande, puisque ce qui a été annoncé à la séance plénière, c'est-à-dire qu'il y a eu consensus, n'est pas exact. Il n'y a jamais eu de consensus, puisque le président Hollande a levé la séance avant que le président mauricien ait eu l'occasion de venir dire « il n'y a pas de consensus, passons au vote ». Ce qui est prévu par la charte de l'organisation. Voilà une organisation qui prêche la démocratie et qui refuse une élection par un coup de force politique.
Donc aujourd'hui, vous dites que pour l'avenir de la francophonie, il faudra démocratiser les instances, c'est ça?
Absolument. C'est même tout le sens de ce livre. Toutes les organisations internationales passent par la voie des élections pour choisir leurs dirigeants. Et pas la francophonie, qui prétend promouvoir la démocratie.
Quand vous portez ce regard critique sur les actions de Michael Jean, est-ce que vous ne tenez pas les propos d'un mauvais perdant?
Pas du tout. Ces critiques que je formule, ce n'est pas des critiques sur la performance de Madame Jean, mais pour porter un regard sur ce qu'est la francophonie aujourd'hui. Et en réalité, il est un peu une synthèse de tout ce que j'ai entendu pendant une année de campagne, j'ai rencontré les chefs d'État africains eux-mêmes, j'ai senti beaucoup de scepticisme, de désillusion dans l'espace francophone à l'égard de l'organisation. Est-elle encore utile? Comment peut-elle se rendre utile? Quelle est sa valeur ajoutée? Toutes ces questions se posent, et plus particulièrement au Sud, en Afrique et souvent aussi en Asie.
Jean-Claude de Lestrac, dans 2 ans, au sommet de la francophonie en Arménie, vous serez candidat?
Non, pas du tout. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai fait ce livre. J'ai dit que je tourne la page. J'ai fait ce livre pour que la prochaine élection se déroule de manière démocratique.
Jean-Claude de Lestrac, merci.